Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Gaumont, Elisabeth Philippe et Florent Georgesco pour parler ensemble de La Fabrique des Salauds de Chris Krauss chez Belfond, Girl d'Edna O'Brien chez Sabine Vespizer. Florent Georgesco, lui, livrera son coup de cœur pour La Croisade sur le Danube de Jean de Vavrin chez Anacharsis. Et il y aura un journal de la dispute ouvert par Lucille Gaumont consacré aux livres numériques. Nous ouvrons cette dispute avec La Fabrique des Salauds de Chris Krauss, publié chez Belfond dans une traduction de Rose Labourie. Voilà un livre qui apporte une expérience, assurément, même si elle peut être vécue différemment, on va en parler. Expérience car il s'agit de passer 900 pages en compagnie d'un monstre. Chris Krauss, qui est également cinéaste, a en effet choisi de nous plonger dans le cerveau d'un homme qu'on rencontre au départ dans une chambre d'hôpital. Nous sommes en 1975. Il partage sa chambre avec un jeune hippie, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai. Et on va découvrir peu à peu l'histoire du narrateur qui a été le témoin ou l'acteur des plus grandes tragédies du XXe siècle. Donc le hippie lui pense que la bonté est un sentiment universel, un bien universel partagé par tous les humains. On va voir s'il va garder cette philosophie jusqu'au bout du livre, parce que c'est vrai que les horreurs sont nombreuses, et d'ailleurs l'auteur signe un avant-propos à son roman pour bien préciser que seule une petite partie des événements racontés au fil des pages est entièrement imaginaire, et que le reste, personnage et fait, aussi improbable puisse-t-il sembler, ont bien existé, ont bien eu lieu. Je vais quand même dire que j'ai dit 20e siècle parce que l'histoire commence en 1905, parce que ça commence avec l'enterrement du grand-père Zolm, pasteur assassiné par les bolcheviks révolutionnaires. C'est aussi là une naissance donc du frère aîné de Kojak qui sera le narrateur. Le frère aîné, c'est Hubert, c'est une histoire d'une fratrie, et puis il y a une jeune femme aussi qui va y rentrer, Eva, qui va être recueillie. On dira un peu tout à l'heure dans quelles circonstances, et on va suivre le parcours de ces trois-là. Avant la dispute et avant d'entendre un extrait de ce livre de Chris Krauss, un premier tour de table pour résumer votre impression, Florent Georgesco.
Avec tout cela, avec en effet une sorte de pandémonium du XXe siècle où toutes les monstruosités sont présentes, il arrive à faire un texte qui évidemment avec beaucoup d'ironie et de dureté, enfin de sarcasme.
Bah, c'est la synthèse, hein, Florent, je vous rappelle.
C'est la synthèse. La synthèse de 900 pages, mon cher Arnaud. C'est...
Oui, non mais.
Mais avec tout ça, il arrive à faire un texte qui est enlevé, qui a une force, qui au fond arrive à dire l'horreur par le comique, par une sorte de parodie de la conscience,
pas pour le propos,
de la quête de conscience morale chez son personnage, et on y reviendra.
Ça va faire gros point, bon, notre couverture, Georgesco. Elisabeth Philippe.
J'essaie d'être un peu plus synthétique. Non, La Fabrique des Salauds, on pourrait mettre un bandeau, Les Bienveillantes, Le Retour, et se demander si c'était vraiment nécessaire.
Voilà, qui est synthétique. Lucille Gaumont.
Moi, je dirais un livre ample, et c'est à ce prix qu'on peut fabriquer en littérature un salaud.
Et un extrait de cette Fabrique des Salauds, lu par Boris Pinault.
Le hippie a beau être un vrai gamin et ne rien comprendre à la pureté cristalline du mal, et encore moins à sa bêtise, je serais ravi de découvrir qu'il puisse être normal, que les gens se montrent honnêtes avec moi. Des plaques tectoniques d'émotions bougent en moi. Et sur ces plaques, de petites bougies d'enfance s'allument. Et pourtant, chère mémoire, j'ai déjà connu des moments de puissance spirituelle. Après tout, je viens d'une famille de pasteurs. Même papa, avant de devenir peintre, avait dû étudier la théologie. Ordre du sévère Grosspapping, qui rêvait d'un successeur pour son pastorat. Papa avait bravement prononcé son prêche probatoire avant de fuir son despote de père par le secours de l'art. D'un point de vue génétique, Quatre pasteurs et demi m'ont donc précédé, et ce n'est peut-être pas un hasard si la boucle se boucle dans cet hôpital, et si je me retrouve face à moi-même en présence d'un gourou du dimanche, pas sorti de l'enfance. Non, ce ne peut être un hasard. Le hippie est lui aussi convaincu qu'il n'y a pas de coïncidence. Tout obéit à des règles déterminées. Et tout est lié à tout. Il suffit de le reconnaître. Et une fois que le lien est fait, le contre-nature devient naturel. Pour se trouver, il faut trouver son histoire. Raconte-moi le début, puis le milieu, puis la fin de ton histoire. Et tu auras le lien. Voilà en gros ce qu'il m'indique. « C'est très compliqué le début, je vous l'ai déjà dit, » réponds-je d'une voix rauque. « C'est le sens de notre rencontre, que tu puisses raconter le début. Dans la vie, l'occasion se présente rarement. C'est tellement difficile. Les gens ne veulent que des conclusions. » Le hippie balance tristement la tête, sa longue chevelure s'enroule autour de sa pipe. Et c'est ainsi que je continue le début.
Chez Shaft, là, mais c'est pas tout la même ambiance. C'est la même année, on va dire. C'est comme ça qu'on va l'entendre. Avant la synthèse de Florent Georgescu, j'aimerais mettre Lucille Como.
Encore une synthèse.
Dire pourquoi parce que je vous présente.
Il n'y a que des synthèses, Florent.
Pour vous, il n'y a que des
synthèses. Le monde s'y ennuyeux.
Les autres peuvent développer. Lucille Como, pour
mais là, il a un bon sens de la synthèse, en fait. Hein,
mais oui.
Parce qu'il traverse quand même une énorme période. Bon, même si le livre est gigantesque, il y a un nombre de personnages, un nombre de rapports à l'histoire qui est quand même assez impressionnant. C'est vraiment, moi, je pense, autour de l'ampleur, enfin, de cette ampleur-là qu'il faut partir, parce que c'est là que se joue toute la complexité du récit. Et je pense que ce ne serait absolument pas possible de faire ce roman-là sans le pavé que devient le livre. On parlera de la matérialité du livre un peu plus tard. Là, en l'occurrence, on a besoin de ça pour que s'épanouissent toutes les nuances et tout le déroulé de cette histoire-là. Et surtout pour que se fabrique réellement le salaud qui est le narrateur, puisqu'on est à la première personne, on l'entendait dans l'extrait, et que ce salaud devienne un personnage acceptable. Bon, on parlera après à quel point il est acceptable pour le lecteur, pour qu'il nous inspire suffisamment d'empathie, en tout cas pour qu'on suive réellement ses aventures. Moi, je pense que déjà, il y a un intérêt qui est historique évident et qui repose beaucoup sur le choix de cette famille, qui est une famille lettonne. Mmh. Et de fait, la Lettonie, qui est un pays qui a été ballotté en permanence pendant tout le XXe siècle, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après pendant la Guerre froide, permet une plasticité historique et du coup de narration qui est immense, parce que ce personnage letton, il peut circuler, en gros, bon, sans livrer trop d'informations, mais entre bon, sa Lettonie natale, l'Allemagne nazie, puis après, on va jusqu'en Israël. Il a des rapports à peu près avec tous les espions du monde entier. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Il y en a 12 en tout et il les retrouve autour des quelques dizaines d'années qu'on suit. Et tout ça permet également beaucoup de nuances idéologiques qui sont quand même extrêmement bien posées. Florent parlait d'humour. C'est toujours très légèrement. Il y a quelque chose d'assez étonnant, je trouve, dans le ton de ce livre qui est vraiment unique. Parce que ça pourrait verser dans le cynisme. On a une telle lourdeur d'événements et de compte-rendus de choses absolument abominables que utiliser un ton un peu ironique ou un peu léger pourrait immédiatement tomber sous le coup d'un cynisme insupportable. Et de fait, ça ne l'est pas. Et je me suis beaucoup demandé pourquoi. Je crois pas avoir vraiment de réponse. Je pense qu'on est vraiment dans une forme d'humour noir extrêmement bien construit, qui fait que tout est absolument supportable, que tout est lisible, et que au contraire du fameux hippie qui écoute toute l'histoire, parce que ce récit cadre refait surface très régulièrement, c'est une des structures du roman, nous sommes totalement impliqués dans l'affaire, et nous sommes totalement en empathie et en attente, il y a des effets de suspens qui sont extrêmement bien amenés, avec ce personnage de Constantine Solm, qui change de nom assez régulièrement. Donc, c'est une synthèse, allez, synthèse, entre un excellent roman d'espionnage, qui a vraiment un effet page-turner, on va dire ça en anglais, mais vraiment qu'on a envie de tourner les pages, c'est extrêmement haletant, et à la fois une somme historique, je pense, assez considérable et documentée, et puis ce ton qui lie les deux, je pense qu'il fait vraiment la synthèse entre les deux, qui est un ton noir très particulier.
Bon, j'ai l'impression que c'est pas le même effet produit sur Elisabeth Philippe.
Sur l'envie de tourner les pages, oui, parce qu'il y a un côté saga aussi. On est dans l'histoire et puis dans l'histoire de cette famille qui présente, comme dans Les Bienveillantes, quelque chose d'un peu incestueux. On est une histoire d'amour. Je dévoile pas forcément. C'est dit très vite. Ça arrive très vite dans le roman. Ça, oui, on tourne les pages assez facilement, même si je trouve qu'il y a quand même une rupture entre la première partie, enfin une des premières parties, tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale et après. Ça, je développerai peut-être. Ensuite, vous parliez d'un livre avec énormément de nuances. Alors moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est un livre avec des symboles extrêmement appuyés. Alors, pardon, mais... le symbole, le blason de cette famille lettonne, c'est la pomme rouge. Attention, la pomme, le fruit du mal, etc. La jeune femme qui arrive dans cette famille, donc qui s'appelle Eve. Enfin, on est quand même dans toute une symbolique extrêmement appuyée sur le mal qui fait son entrée dans cette famille lettonne, on va dire lambda. Je trouve ça extrêmement lourd. Je trouve que le dispositif narratif avec le hippie, enfin le fait que l'ancien nazi raconte ses souvenirs au hippie, je trouve ça extrêmement artificiel, voire grotesque. Et c'est l'apothéose, c'est la fin qui est d'un ridicule, mais d'un ridicule. Et ça aussi, c'est un point commun avec Les Bienveillants, dont la fin était d'un grotesque. Mais et on retrouve pas mal de points communs parce que ce sont les mêmes, c'est évidemment la même période historique. On a un héros. Alors déjà, moi, je me pose une question, pourquoi tous les nazis ont un rapport comme ça à la scatologie très très compliqué? C'était le cas du héros des Bienveillantes, c'est à nouveau le cas ici, où il est fasciné par le pot de chambre dans lequel fait pipi sa jeune sœur adoptive, et on a le droit à ce genre de détails à plusieurs reprises. Donc ça, c'est quand même, je pense que ça pourrait valoir des thèses de littérature quand même sur ce sujet, nazisme et scatologie.
Prenez note, vous qui nous écoutez.
Non, tout ça m'a assez ennuyée. Ensuite, il y a ces retournements. Oui, vous le disiez, on traverse un siècle, c'est très très vaste. Il y a une ampleur, il y a ce côté roman d'espionnage. Et je trouve qu'à partir du moment où on sort de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on arrive dans la Guerre froide, et donc vraiment dans ce rapport d'espionnage, là, je trouve qu'il fonctionne beaucoup plus par fiche. Et là, j'ai eu l'impression d'arriver dans le Wikipédia du nazisme. C'est-à-dire qu'on a le droit à tous les profils des nazis qui vont être poursuivis. Quand il par un retournement de l'intrigue, et là je trouvais que ça devenait très fastidieux, même sur le plan du récit, en fait, tout simplement.
Il fronce les sourcils depuis que vous parlez. Tu vas maintenant se réprimer. Florent Georgescu a la parole.
Il me semble quand même que quand vous parlez de symboles, vous oubliez juste une dimension essentielle qui est l'ironie, justement.
Je l'aperçois pas, je suis désolée.
Elle est permanente dans le livre. Il joue sur... Il y a le ton, comme disait Lucille, il y a en permanence cette sorte de distance, en effet, assez difficile à définir et à saisir. Mais il y a plus que ça. Le livre est construit presque par moment, alors qu'il est absolument poignant et qu'il touche à une horreur très juste à d'autres moments. Mais il peut toucher aussi au vaudeville. Y compris dans les scènes les plus lourdes, il joue à faire claquer les portes, à faire réapparaître les personnages. Enfin, il y a un aspect parodique en permanence dans la trame même du livre qui relativise très largement la part symbolique. Vous citez la pomme, c'est un contexte particulier au début.
Elle revient très souvent, la pomme.
C'est parce que c'est un jeu familial. Enfin, c'est pas traité tellement fortement comme un symbole. Je vois pas en quoi le symbole de la Genèse est très présent dans le livre. Mais bon,
avec la femme qui s'appelle Ève, excusez-moi. Très lourd. C'est quand même les deux symboles principaux.
Oui, mais enfin, dans un si gros livre, il y a d'autres choses. Par ailleurs, la comparaison avec Les Bienveillants ne me paraît pas très juste, parce que d'abord, c'est d'une tonalité absolument différente. Par ailleurs, c'est un type de héros nazi, si je puis dire, qui n'est pas de même nature que celui des bienveillantes. Et enfin, parce que la moitié au moins du livre, et on est fait sur une autre période, on ne l'a peut-être pas assez dit, parce que c'est un des grands intérêts d'abord historique du livre, c'est, vous parliez de la chasse aux nazis, c'est pas tellement ça, c'est surtout la récupération des nazis, des nazis par, d'une part, les services secrets allemands après-guerre, et par la CIA à travers ces services-là, et il compose toute la carte des liens entre les services du KGB à la CIA, enfin ce n'est pas un lien à proprement parler, mais enfin il y a des circulations, et notre personnage est un des éléments de cette circulation, jusqu'en Israël où Koja donc est envoyé en mission à un moment, cet aspect-là est lui aussi très vaste, très intéressant, la comparaison avec les bienveillants ne va pas très loin, je trouve, dans ce livre. Parce que ce qu'il montre, c'est, vous parliez de l'aspect laiton de cette famille. Ce ne sont pas du tout des laitons de base. Ce sont des Allemands de Lettonie. Et cette position-là est très importante parce que tout commence là. C'est en tant qu'Allemands de Lettonie, les Allemands étaient dans l'Empire russe. Au moment où le livre commence, on est encore dans l'Empire russe, où restent ce qu'on appelle les barons baltes, ce qui est l'héritage, enfin pour entrer dans les complications historiques, l'héritage de la Hanse, des grandes familles qui formaient le commerce dans ces régions-là, qui sont des familles allemandes, c'est l'élite en Lettonie, et tout commence parce que le grand-père est tué par des bolcheviks, qui sont des Lettons, eux, des Lettons de base, qui persécutent, qui veulent tuer, qui veulent voler, piller des familles qui étaient l'élite du pays, qui tenaient le pays très durement d'ailleurs. Donc ce ne sont pas des Lettons. Cette famille-là ce ne sont pas des Lettons, ce sont des Allemands. Ils parlent des Lettons, c'est les autres, les Lettons. Et cet angle-là de la minorité, de la position en fait déjà absurde à l'intérieur d'un pays lui-même, disons très complexe, est une position absolument centrale dans le livre. C'est l'histoire de quelqu'un qui ne trouve jamais de place, qui est dans un pays qui n'est pas de ce pays, qui est du pays d'à côté, l'Allemagne, d'où des circulations qui l'emmènent jusqu'au nazisme par hasard. Et toute la question qui est remarquablement approfondie et vivante et prenante dans le livre, c'est comment il se retrouve là par hasard. C'est pas du tout un nazi convaincu au début. Il se retrouve dans le parti nazi et avec des fonctions parce que sa famille est ruinée et qu'il a besoin de boulot. Mais comment, à partir de cela, il va tout accepter? Comment il va participer, son frère plus encore que lui, mais lui va être à tout le moins complice de la Shoah elle-même, du massacre. On est à ce moment-là, dans le début de la Shoah, où on tue les gens avec des armes avant la solution finale, avant les chambres à gaz. Il participe à ça, il s'est retrouvé là par hasard, il se retrouvera par hasard partout, à travers le monde, dans tout le livre. Et comment, à partir de ça, il trouve le moyen de justifier le fait d'avoir accepté la plus grande horreur est un des ressorts du livre principal qui est absolument passionnant et traité avec une justesse que je trouve extraordinaire.
Alors, par hasard,
très loin de tout fatras symbolique. On est dans une sorte de psychologie extrêmement rude, extrêmement précise et concrète qui, elle, est passionnante tout au long du livre.
Il se trouve là par hasard, mais aussi par nécessité, par lâcheté, par opportunisme. Enfin, il y a quand même...
Non, mais je distingue.
Je reviens sur les nuances, parce que je trouve qu'il y en a en effet beaucoup, selon les cas de figure que va croiser Koja dans sa vie. Étant entendu quand même que moi, je trouve aussi que c'est assez étonnant que le livre se lise aussi de façon aussi fluide, parce que moi aussi, j'ai été sensible, mais... C'est vrai que c'est un livre qu'on a du mal à lâcher, mais il faut quand même pas oublier que cette histoire est quand même racontée par un très grand menteur. Et c'est aussi une des ironies, quand même, me semble-t-il, de ce livre. C'est quand même, tout ça est extrêmement sujet à caution. Moi, je me demande si c'est pas encore un acte sadique qu'il a envie de commettre sur ce jeune hippie que de lui déverser des choses pareilles. Enfin, il y a aussi cette dimension-là qui rajoute, je pense, encore une nuance, pardon, Elisabeth Philippe, à ce livre-là.
Qui rajoute un problème pour moi, mais on y reviendra.
Problème, on y reviendra, mais alors très vite.
Mais justement, mais la question qui est vraiment une grande question littéraire, c'est la question du pacte.
Oui, et bah, je crois qu'il y a un grand problème de pacte.
Alors
de
moi, je pense que la question de l'ironie et du ton que vous n'avez pas perçu ou que vous ne
pouvez pas percevoir. Vous n'êtes pas sensible.
En tout cas, je pense qu'elle elle prend en charge quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est la différence entre la vérité et le vraisemblable.
Il y a, pour moi, c'est là le niveau principal du livre.
C'est invraisemblable. Oui, évidemment, parfois d'ailleurs.
Le plus invraisemblable, et comme il le dit dans son avant-propos, ce qui est historique.
Très léger. En effet, disiez, il est là par hasard. En effet, il se retrouve absolument à toutes les réunions déterminantes. Par ailleurs, la situation familiale qu'on ne va pas décrire parvient à un niveau de complexité qui est de fait invraisemblable. Oui. Mais là, cette question-là, elle se pose, elle est sans cesse thématisée, sans cesse mise à distance, et du coup ça fonctionne. Et le grotesque dont vous parlez, oui, il existe, la fin, elle est en effet grotesque.
Mais je trouve mais que sur le pacte de lecture, il y a un vrai problème. Alors Elisabeth,
il est évident qu'elle l'est volontairement.
Elisabeth
Philippe. Mais sur le pacte de lecture, là, je trouve que c'est vraiment le principal problème de ce livre, et je trouve qu'il est très limite sur cette question-là, entre vérité et fiction. Et je suis désolée, sur la partie Deuxième Guerre mondiale qu'on maîtrise peut-être mieux, dont on a une plus grande connaissance, très bien, mais dès qu'on part après, moi j'étais obligée de vérifier constamment ces personnages, est-il vrai ou non. Je trouve qu'il y a une légèreté dans la façon d'aborder ces sujets-là qui me paraît un peu problématique, voire très problématique. Je trouve que dans son avant-propos et dans ce qu'il écrit après, je trouve qu'il s'en sort très très mal. Enfin, il y a une vision de tout ça, une réflexion qui est extrêmement superficielle, où il y a peut-être des entourloupes, c'est peut-être vrai ou ça ne l'est pas. Et puis après, en plus, il se il dit, et puis on trouvera peut-être aussi des traces des œuvres de Nabokov, de Delillo, de Henry Miller. Alors là, pardon, mais pas du tout. Excuse-moi, Chris Cross, mais tu n'es pas à ce niveau-là. Et je trouve que sur le pacte de lecture entre vérité historique et fiction, là, on est vraiment dans un cas d'école. Et de nombreux romans.
Mais quel problème ça pose ?
Eh bien, parce que.
Au fond, de quoi parlez-vous ? Quel problème ?
Eh ben, je trouve que, par exemple, à une époque.
Est-ce qu'il nous induit en erreur?
À une époque où on est dans une ère du soupçon généralisé, où les théories du complot fleurissent, où un livre comme celui de Philippe de Villiers, qui justement revient sur les liens entre nazisme, CIA, etc., se vend comme des petits pains, je trouve que ce genre de bouquin, ça peut apporter de l'eau au moulin à des théories.
Mais c'est thématisé en permanence, la question du doute.
Ce sont des choses parfaitement établies historiquement.
Vous connaissez
ce lien
tous
entre
les
la CIA.
Noms des espions allemands,
non,
nazis,
je ne connais pas tous.
Mais je crois même pas que la question se pose.
Mais ce cadre-là,
On accepte le cadre narratif qui, de toute façon, n'est pas réussi.
Par ailleurs, excusez-moi, mais enfin, c'est une chose très connue historiquement, ce lien.
Je suis d'accord,
en l'occurrence.
Donc,
quel problème ça pose ? Je vous pose encore la question, quel problème ça pose ? Sur le plan historique ?
Oui, sur le plan historique, ça posait problème.
Lequel ? Dites-le.
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est quand même un enjeu assez important.
Ça s'appelle un roman. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans Guerre et Paix.
Oui, un roman.
Évidemment.
Qui repose
mais
sur
il se trouve que ce qui relève de la généralité, en dehors de l'histoire romanesque de ces personnages particuliers, correspond à une connaissance historique très établie, très connue. Ce ne sont pas non plus des choses extrêmement rares.
Pas dans le détail. Et comme c'est de l'histoire souterraine, l'histoire de l'espionnage, etc., je suis désolée, mais c'est...
L'histoire de l'espionnage a beau être souterraine par nature, en effet, il se trouve que quand les historiens travaillent dessus, on la connaît un peu mieux. En l'occurrence, ces choses-là sont parfaitement connues. Et je trouve quand même extrêmement injuste de laisser entendre que ce livre pose des problèmes de type quoi ? Idéologique, politique, d'une complaisance ?
Non,
vous dites que ça pose problème, c'est un peu vague, c'est une accusation grave. Pour un livre qui, au contraire, est pour moi un moyen qui ajoute des instruments justement purement littéraires de connaissance.
Puis littéralement,
de connaissance
plus,
de l'effondrement moral qui est le mystère essentiel que le XXe siècle nous envoie dans la figure. Sur ce plan-là, il apporte des choses sur ce qu'on appelle, si vous voulez, de manière devenue banale, la banalité du mal, justement. Sur cela, il y a quelque chose dans la complaisance de son personnage et des personnages autour de lui, et c'est dommage qu'on ne puisse pas le développer, parce que c'est absolument pas
19h26, et on passe beaucoup plus de temps que d'habitude.
D'entrer quand même dans une intimité d'une question qui est absolument fondamentale, je vois vraiment pas en quoi ça peut poser des problèmes historiquement.
Non mais je suis d'accord que le débat mérite plus de temps, d'ailleurs il n'y aura pas de coup de cœur ce soir, parce qu'il faut faire des choix, mon cher Florian. On s'est trahi.
C'était un titre, parce
absolument.
Que
mais c'est vrai que ce livre, La Fabrique des Salauds, mérite débat. Moi, j'entends les arguments des uns et des autres. Je peux adhérer, plus ou moins. C'est pas la question. Lisez par vous-même si vous avez une trentaine d'heures devant vous. Mais à mon sens, vous ne les regretterez pas. Ce n'est pas un sens tout à fait partagé dans cette table. Et Chris Krauss, publié chez Bellefond, traduction Rose Labourie.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Girl, d'Edna O'Brien, publiée chez Sabine Vespizer, dans une traduction d'Aude Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat, l'autrice irlandaise qui est née en 1930, a été, comme beaucoup, frappée, touchée par l'histoire terrible des lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram en 2014. Elle en a fait la matière de son nouveau roman, Paris risqué. Là encore, on va en parler. Cette fille du titre Girl est nigériane, c'est elle qui est la narratrice du livre, elle est enlevée. Et on va suivre non seulement son calvaire, mais aussi ses conséquences, premières impressions, Elisabeth Philippe.
C'est un livre de combat, urgent et impitoyable.
Lucille Como.
Ou comment prendre en charge sans lourdeur et sans pittoresque l'horreur du réel.
Florent Georgescu.
L'acuité, l'énergie, la justesse de ce livre est très impressionnante au point que... Elle est très insaisissable aussi, que c'est assez difficile. L'exercice d'en parler va être assez difficile parce qu'elle a une force et une maîtrise tellement extraordinaire que aucune synthèse ne sera possible.
Allez, un extrait de ce texte d'Edna O'Brien lu par Natacha Trio.
Il n'y a plus que Babi et moi maintenant. Elle crie de la fosse de son ventre vide, des cris sauvages et rauques. Et je lui dis, tu n'as ni nom ni père. J'aboie après elle. Parfois, j'ai envie de la tuer. Mes seins ont la taille de coquetier et elle tire sur les mamelons comme si elle aussi voulait me tuer. Nous cherchons un puits parce que l'eau des fossés est glauque et boueuse. Elle a un goût infect. Nous buvons l'eau claire dans la cavité des gros rochers. Je la prends dans le creux de mes mains et elle la lape avidement, l'avale, au risque de s'étrangler. Nos instants de grâce, cette eau fraîche, qui trompe un moment la soif et le désespoir. Je n'ai aucune idée du jour, du mois ou de l'année. Tout ce que je sais, c'est que l'air est chargé de sable, du sable qui souffle depuis le Sahel, qui nous érafle les yeux et nous aveugle à moitié. Où il n'y a pas d'arbres, la terre est ocre jaune, creusée de zigzags, tout un tableau, et les petites feuilles ourlées commencent à pousser à la pointe des branches. La nuit, éveillée, je vois le ciel. Une immense étendue de ciel violet, une terre de beauté devenue lieu de misère. Tant de filles mortes. Morne murmure des arbres. Je la couche la tête posée sur un monticule. C'est le moment où elle dort. Je dors par bribes, par peur de ce qui pourrait nous arriver. Parfois, je me réveille dans un rêve, les paupières humides, le rêve d'une personne que j'ai dû connaître ou même aimer. Mais ce n'est l'heure ni des souvenirs, ni de l'apitoiement. À l'occasion, j'entends l'aboiement des chiens au loin. Des jours que je n'ai aperçu le moindre être humain. Et quand j'en verrai un, j'ai peur que ce soit pour nous traîner vers la fin la plus sanglante. Je suis incapable de prier dans ma vieille langue, car ils nous ont bombardés de leurs prières, leurs édits, leur idéologie, leur haine, leur sainteté.
Voilà pour cet extrait de Girl d'Edna O'Brien, traduction Aude Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat. Elisabeth Philippe, pour commencer à parler de ce livre.
Je trouve que ce passage est particulièrement symbolique, emblématique de l'art romanesque d'Edna O'Brien, puisque c'est les toutes premières pages. Et il y a deux temporalités, en fait, en quatre pages. Celle de l'enlèvement dans la jungle, ce labyrinthe d'arbres, et puis l'après, sur cette terre ocre, sans arbres. Et c'est toute la dévastation de ce personnage, de Mariam, donc cette girl, ce que Edna O'Brien qualifie à un moment du livre d'effroyable carnage intérieur. Ben, tout est dit là, en quatre pages. Et pour autant, les pages qui vont suivre ne vont que creuser encore plus cette horreur, ce carnage intérieur, avec une puissance, une force et surtout un sentiment d'urgence, je trouve, qui ne quitte pas les pages de ce roman. Roman pour lequel Edna O'Brien, donc 88 ans, s'est énormément documentée, est allée sur place au Nigeria. Et je trouve que ce sentiment d'urgence, il nous prend, il nous happe et il ne nous abandonne jamais. Et il nous colle à la peau comme cette crasse symbolique colle à celle de la jeune femme. Cette souillure dont elle n'arrive pas à se débarrasser, en tout cas aux yeux de ceux qui la recueillent. Parce que ce qui est très intéressant, c'est évidemment tout l'après. Il y a évidemment ces descriptions épouvantables du camp dans lequel elle est retenue par les djihadistes. Edna O'Brien ne nous épargne absolument rien, sans pour autant que ce soit, pesant ou qui ait une dimension exhibitionniste. Enfin,
il y a beaucoup de pudeur et en même temps toute la cruauté.
Et tout est dit, avec vraiment un mélange de crudité et de lyrisme, parce que ça a toujours été comme ça. O'Brien a toujours eu cette forme de lyrisme, même dans l'abjection et dans l'horreur, dans le carnage, donc les tortures, les châtiments, les viols, la lapidation. Tout est dit. La scène de lapidation qui court sur 3 pages, c'est décrit avec une minutie, quelque chose d'assez clinique et c'est absolument glaçant. Et l'après, donc, parce que cette jeune fille parvient à s'échapper et on voit qu'elle elle est constamment prisonnière en tant que femme. Et ça, c'est quand même le sujet qui occupe, habite Edna O'Brien depuis ses débuts dans les années 60. On retrouve d'ailleurs des similitudes entre ce livre et ses premiers livres, sa trilogie Country Girls, Les filles de la campagne, livres qui ont quand même été à l'époque brûlés ou interdits en Irlande. Ça ne l'a jamais quitté, Edna O'Brien, et c'est ça qui est formidable, entre guillemets, en tout cas, qui mérite, moi, qui force vraiment mon admiration, c'est de voir qu'à 88 ans, elle est toujours dans ce combat et avec eux. Et c'est la littérature vraiment qu'elle met au service de ce combat.
Lucille Comeau, ce girl.
Oui, on a toujours une crainte quand il y a une forme d'éloignement entre la personne qui écrit et ce sujet, d'autant que c'est un sujet qui est encore chaud et extrêmement brûlant, parce que c'est un sujet d'actualité et qui brasse un nombre d'images qu'on a, qui sont évidemment des parcelles de la réalité de Boko Haram au Nigeria. Moi, ce que je trouve très beau, c'est que la question de l'appropriation, qui est le soupçon qu'on pourrait avoir en permanence dans le livre, ne se pose jamais. Et dès les premières pages, on sent que l'écriture d'Edna O'Brien ne s'approprie ni le territoire en question, ni l'actualité, ni la langue, ce qui est heureusement. Donc, c'est-à-dire que la question du pittoresque, par exemple, ne se pose pas et que tout est extrêmement juste parce que c'est une écriture qui accueille en soi, en gardant sa poésie et son lyrisme propre, la parole des autres. Et d'ailleurs, il y a des très beaux passages qui sont en italique souvent ou qui sont des chansons ou des petites choses à noter qui sont la parole de l'autre, la parole des autres, des personnages secondaires qui sont parfois croisés sur la route et qui ne reviennent pas, mais qui sont uniquement là pour livrer leurs paroles, leurs contes, leurs chansons. Ça, c'est très beau. Et je suis d'accord aussi avec Elisabeth Philippe sur la construction. J'ai été particulièrement passionnée par la deuxième partie, en effet. Ce qui n'est pas forcément une évidence. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une fois qu'elle sortit, qu'elle s'est enfuie, une sorte de happy end totalement ridicule, parce que de fait, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Et la question de ça reconstruction ou de sa non-reconstruction est extrêmement bien amenée. C'est d'une finesse. Y a des phrases toutes simples. J'en ai relevé une. À un moment donné, elle va avoir affaire à des professionnels, entre guillemets, de la reconstruction de soi parce que elle est à l'hôpital ou je sais plus, dans une clinique. Et elle doit raconter ce qui lui est arrivé et elle dit « je lui dis des choses pour ne pas lui dire des choses ». C'est exactement ce type de notation qui a très souvent d'ailleurs à voir avec le langage, avec ce qu'on nous prend du langage, ce qu'on peut se réapproprier avec le langage, la langue ancienne qu'on a perdue,
oui,
qu'on ne peut plus reparler.
Ma langue,
ça, c'est extrêmement beau parce que du coup, ça induit que elle, Edna O'Brien, depuis son Irlande et depuis ses 88 ans, réussit à prendre la parole d'une jeune fille nigériane. C'est naïvement dit, mais en l'entendant de ce que je dis, je trouve ça un peu bête. Mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien.
Mais c'est très émouvant, au contraire. Florent Georgesco.
Ce qu'il est aussi, et ce qui est fascinant dans le livre, c'est comme elle arrive à tout faire exister à la fois. Parce que c'est une voix, en effet, c'est un univers antérieur, très complexe déjà à saisir. Et pourtant, qui est extrêmement transparent sur le monde qu'il traverse, que ce personnage traverse. Par exemple, elle n'appuie pas du tout sur les terroristes de Boko Haram. Ils ne sont pas fortement mis en avant. Et pourtant, dans les mouvements, dans les manières qu'elle a d'écrire un geste, un acte évidemment de viol, de meurtre, de lapidation, enfin bon, on ne les voit pas, disons, à leur avantage. C'est très facile, enfin, ou plutôt, il est très difficile de ne pas être caricatural en montrant ces personnages-là. Et pourtant, quelque chose de leur humanité à eux aussi, totalement détruite, totalement abjecte, passe cependant. Le mouvement est incertain. Elle floute les mouvements qui pourraient être caricaturaux. De même, d'ailleurs, vous parliez de la deuxième partie, il y a un happy end au bout du compte.
Oui.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de happy end. On ne peut pas dire qu'elle ferme la porte à la reconstruction. Ce qui est terrifiant, c'est en revanche ce qui le précède, c'est-à-dire son retour chez elle, et la réprobation absolue qu'elle suscite dans sa famille. Sa mère a le visage fermé en la voyant, elle qui a été, qui a subi ce qu'elle vient de subir. Mais même ces personnages-là aussi ont une très grande épaisseur humaine. Et tout bouge comme ça. Il y a aussi, par ailleurs, c'est pour ça, elle est fascinante dans la manière de fondre tous les plans dans une même phrase, parfois, en tout cas dans un même passage. Il y a aussi la nature, il y a aussi, notamment, il y a quelque chose de sublime dans le retour, dans le long chemin, puisque donc elle marche avec une jeune amie qui a réussi à s'échapper elle aussi du camp de Boko Haram. Elle marche à travers les forêts, dans un monde qui n'est pas tellement décrit, là aussi. Comment fait-elle ? Elle ne décrit pas au sens précis du terme. Pourtant, il y a une force, une présence de cette nature, des animaux qu'on ne nomme pas, parce qu'elles ne savent pas, les jeunes filles, qui sont ce que sont ces animaux. Mais ils passent. Quelque chose passe comme ça. Quelque chose grouille tout autour du personnage qui donne une force de vie à tout cela, absolument saisissante, parce qu'on est dans la pureté horrifique d'un conte. On est chez les ogres et on est, du point de vue de l'actualité, dans quelque chose de qui est saturé pour nous d'informations médiatiques. Eh bien, avec tout ça qui peut très facilement nous envoyer dans le symbolique pur, etc., elle est au plus près d'un terrain très mystérieux qu'elle saisit avec des moyens eux-mêmes extrêmement mystérieux qui sont vraiment ceux d'une très grande romancière.
Et pour me joindre à ce concert d'admiration, juste encore un autre exemple sur la façon dont la mère, la jeune fille, lui raconte comment son père a vécu son absence, sa disparition. Il y a quelques lignes à peine qui disent comment cet homme a réagi, ce qu'il a fait, comment il a vécu cela. Voilà, en quelques lignes, c'est quelque chose d'extrêmement fort, bouleversant évidemment, mais dans une simplicité quoi, qui est effectivement difficile à partager avec nos auditeurs, à part en leur recommandant de lire Girl d'Edna O'Brien, et saluons encore une fois les traducteurs et traductrices Aude Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Doza qui ont fait ce remarquable travail pour Sabine Vespizer, éditeur. C'est l'heure quoi du journal de la dispute finalement, hein, Lucille Como. Et ce soir, le livre numérique est-il une fiction ? On parle beaucoup de fiction ce soir, décidément.
Oui, le livre numérique, depuis le temps qu'on en entend parler et qu'on en parle ici, mais où est-il ce livre numérique ? La revue Back Office, qui est une revue de design graphique et pratique numérique, dans son troisième numéro s'intéresse au sujet « Écrire l'écran », une belle expression qui augure de réponses possibles à cette question. Un article surtout de Lucille Haute, intitulé « Livres mécaniques et chimères numériques » s'aventure dans le champ de la littérature. Il s'émancipe d'emblée du serpent de mer que constitue la fameuse concurrence entre le livre papier et le livre numérique pour poser des questions formelles, celles qui, sans doute, sont les plus intéressantes. Le livre numérique tire-t-il, je cite, « avantage des potentiels suggérés par son appartenance au registre numérique ?» La réponse étant globalement non. Le livre numérique aujourd'hui, ce qu'on appelle livre numérique en tout cas la plupart du temps, fait tout pour imiter le livre mécanique. Lucille Haute rappelle que lorsqu'on télécharge un roman sur sa tablette ou sur son téléphone, sur les applications, Apple Kiosk hein, pour n'en citer qu'une, les livres apparaissent avec leur jaquette dans un graphisme représentant les rayonnages en bois d'une bibliothèque traditionnelle. Tout est fait pour reproduire au mieux les sensations de la lecture papier, bruit de tourne de page, faux coins en haut ou en bas. On a même trouvé divers moyens de figurer l'épaisseur du livre pour que les lecteurs retrouvent leurs repères et aient l'impression d'avancer dans leur lecture. Un entretien avec un des pères du graphisme numérique, Étienne Mineur, rappelle que le devenir numérique du livre est un fait depuis au moins 25 ans, depuis l'apparition de CD-ROM et notamment de CD-ROM culturels. Et pourtant, la littérature n'en fait pas grand-chose. Parmi les différents projets sur lesquels lui a travaillé pendant des années dans diverses institutions, il cite des catalogues d'expositions, des livres d'art, des livres de mode, mais pas grand-chose en matière littéraire, hormis un projet Proust Proust pour Gallimard, dont il détaille à peine la substance. Étienne Mineur glisse d'ailleurs que les éditeurs s'intéressent peu à ces possibilités. Le livre numérique est sans doute pour eux surtout une menace ou une opportunité commerciale. En tout cas, on reste dans des considérations économiques. Lucille Haute, cite tout de même plusieurs œuvres, la plupart du temps hybrides, dont je n'avais jamais entendu parler, parmi lesquelles, par exemple, Fréquence, paru en 2011, un ouvrage collectif écrit par Célia Houdard, avec Sébastien Roux pour la création sonore, mais aussi de la photo, nommée par ses créateurs « Livre pour iPhone ». Le livre numérique qui développe formellement ses potentialités s'apparenterait, je l'imagine, à cette lecture, aux jeux vidéo, aux livres sonores, ou tout bêtement aux fameux livres dont vous êtes le héros, bref, des formes interactive. L'interactivité, hein. Autre serpent de mer, on en parle sans cesse au théâtre, en art plastique. Mmh. On évoque souvent ces pièces dans lesquelles vous circulez, accédez aux acteurs, parfois via smartphone, ou ces expositions immergentes. Toutes ces œuvres interactives remportent dans tous les domaines un fort succès. Alors comment expliquer que la littérature résiste à ces possibilités? N'y a-t-il pour l'expliquer que la limite de l'obsolescence technique, hein, qu'avance Lucille Haute dans son article, ou la résistance est-elle plus forte, plus ancrée? En bref, littérature et numérique peuvent-ils faire forme?
Waouh! Bon, alors vous avez quelques minutes quand même pour répondre. Moi j'ai appris au moins deux mots que je ne connaissais pas dans cet article du Zélote. C'est, je ne sais pas comment dire, skeuomorphisme. Vous connaissiez?
Non.
Je ne suis pas sûr de l'utiliser tous les quatre matins, hein, mais skeuomorphisme, c'est l'élément de design ou de structure qui sert peu ou pas du tout à l'artefact fabriqué à partir du nouveau matériau, mais qui était essentiel à l'objet original. C'est-à-dire,
par exemple,
non, mais c'est tourner les pages sur une liseuse. On fait le geste, ça ne sert à rien, mais ça rappelle. Bon, j'ai appris affordance, que je ne connaissais pas non plus.
Ah, il y a affordance. C'est
un anglicisme, je pense. Oui, c'est idiot.
Toutes les possibilités d'action sur un objet. Bon, ça a l'air de la affordance. Mais c'est vraiment au cœur, par contre, de la question que vous posez. Donc, on enrichit notre vocabulaire. Et on réfléchit. Florent Georgesco, non, Elisabeth avait envie de commencer, je crois. Si, 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 vous étiez prête.
Non, je trouve que là aussi, c'est un serpent de mer. Vous disiez, elle cite quelques exemples, bah, c'est toujours les mêmes, en fait, qu'on cite. Hein, c'est toujours Fréquence,
Chloé
Delhomme. Et vous regarderez, ce sont des œuvres qui datent toutes environ de 2011. On est en 2019, il y a eu peu de choses, ou en tout cas à ma connaissance. En fait, je me souviens que Julliard avait, je me souviens, et c'était pour Pérec, les choses, Julliard avait proposé un livre, une version interactive des choses. Et en fait, bah, je pense que la réponse est là, c'est-à-dire qu'on lisait les choses de Pérec et constamment au cours de la lecture était interrompue par des jeux graphiques, des animations. Quand on a déjà lu les choses.
Oui, mais Pérec n'a pas écrit typiquement le livre pour le support numérique. L'intérêt, ce serait mais...
Bah, c'est un livre augmenté. Voilà,
le fantasme du livre enrichi, du livre augmenté, j'ai presque l'impression, alors j'ai peut-être pas passé pour très réactionnaire ou conservatrice en disant ça, et tant pis, j'assume, mais je pense que c'est la négation même de la littérature, ou en tout cas, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que, au contraire, moi, je pense que dans une époque où on est constamment face à des contenus fragmentés, une époque de zapping où on a plus du tout de capacité de concentration et d'attention, je pense que la littérature, elle doit tirer justement son épingle du jeu en conservant cette forme longue, cette immersion non pas factice, créée par un environnement sonore ou je ne sais quoi, mais par la force même des mots. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains se posent cette question-là et se disent justement, puisque il y a cette concurrence des séries, cette concurrence des réseaux sociaux, nous, on doit justement réaffirmer le pouvoir de la langue, le pouvoir des mots et tenter d'autres formes longues, mais par le seul qui ne tiennent que par la force des mots, sans s'adjoindre des gadgets sonores, visuels, etc. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne vraiment. Après, j'attends qu'on me prouve le contraire, que des objets pensés et conçus en intégrant littérature et justement ces potentialités qu'offre le numérique me soient proposés. Mais pour l'instant, rien n'a jamais été concluant. Mais c'est encore assez récent, finalement.
Lucille Comot et Florent ensuite.
C'est intéressant parce que la question, c'est une question quasiment cognitif, de l'attention, c'est un sujet dont on parle beaucoup, justement, dans tout ce qui s'intéresse au numérique. Elle se pose particulièrement en littérature, mais au théâtre, par exemple, elle ne se pose pas. C'est-à-dire que la question de l'interdisciplinarité, de l'inclusion de nouveaux médias à l'intérieur même du théâtre, on ne la pose pas du tout dans ces termes-là.
Orlando, l'adaptation de Virginia Woolf,
on la pose moins, on la pose nettement moins.
C'est, oui.
En tout cas, on ne... on la pose pas en termes d'attention. On ne soupçonne pas l'influence du
de la technologie.
Voilà, de la technologie sur l'attention. Ouais. Alors qu'en littérature, c'est évidemment la première chose qui rentre en ligne de compte. Ouais,
oui. Florent Georgescu.
Ce qui me frappe d'abord, ce qui m'a frappé notamment en lisant cet article de Lucille Haute, c'est un serpent de mer, comme vous le disiez, Elisabeth, mais c'est un très vieux serpent de mer, déjà. Je me souviens très bien du moment où on a commencé à s'exciter là-dessus, ça doit faire une quinzaine d'années, je parle dans l'édition française, quand on a eu l'impression qu'un raz-de-marée commençait à nous submerger et qu'on allait tout transformer d'un coup. Et ça a été très curieux, cette période-là, et celle dans laquelle nous sommes toujours, en fait. C'est que tout à coup, ce raz-de-marée, on a vu monter les livres numériques je reviens aux questions purement commerciales, mais dans les paniers de vente, disons, globaux.
Ça ne représente que 5%.
Oui, je vous parle de l'époque on augmentait de 200% chaque année, pour s'arrêter à 5%. Tout s'est arrêté. Quelque chose n'a pas marché là-dedans. Et du coup, les discours esthétiques que vous évoquez, qui sont dans cette revue, ont commencé à naître. On est très vite dans une sorte de grande excitation, en se demandant si on n'était pas devant un monde nouveau qui allait créer une littérature nouvelle. Résultat, en effet, elle peut citer trois textes. Elle cite ce que fait François Bon, par exemple, très valeureusement. François Bon a été un des premiers à se lancer là-dedans, mais ça fait presque un tout petit peu de peine de tomber sur lui dans une note de cet article, parce que ça fait 15 ans. Et il y a quelque chose là, et du coup ça rejoint ce que disait Elisabeth, quelque chose qui s'est grippé, qui tout à coup, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, que c'était pas... qu'on n'était pas là où il faut, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas avec le rapport qu'on a au texte. Peut-être, me disais-je en la lisant, peut-être est-ce parce que tout ce qu'elle évoque comme possibilité technique, vous savez, il y a une technologie très très efficace, c'est mes deux mains, mes yeux, ce que je fais avec un livre en main, comment je le tords.
Il n'y a pas mieux.
Elle parle d'expériences de fondée, comme beaucoup de ses travaux d'ailleurs, sur l'hypertexte, c'est-à-dire qui crée un ordre aléatoire de lecture d'un livre. Mais enfin, on n'a pas besoin d'une technique pour ça. Je suis tout à fait capable de feuilleter un livre et de le lire à l'envers s'il le faut, de tout mélanger si j'en ai envie. De même,
je comprends mieux
parfois.
De même,
c'est
ce que je fais tout le temps, comme vous le savez.
Et traduisent littérairement ce genre de potentialité.
Mais c'est pour ça que
d'avoir recours à la technique.
C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Elisabeth, sur l'attention. Moi, ça ne me dérange pas trop qu'on éclate l'attention, parce que c'est assez créatif aussi. Et le livre est-il vraiment un lieu, une sorte de lieu, justement? Est-ce que c'est vraiment une clôture? Je ne le crois pas. On peut aussi, en lisant un livre, on fait nos hypertextes, on fait nos hyperliens nous-mêmes. Mm-hmm. On peut lire avec un ordinateur ou un smartphone à côté de nous. On va vérifier, pour revenir à Chris Krauss, si Otto John est un personnage historique. Est-ce qu'on ne l'a pas fait, nous, là, par exemple, en lisant ce livre? Et au fond, il y a quelque chose de fascinant dans la capacité, dans le génie technologique de cet objet qu'est le livre, qui est, de fait, on a beau chercher, on a beau inventer des trucs absolument mirifiques, on n'arrive pas à dépasser l'efficacité. Elle parle un moment, je crois que c'est un faux problème de la sensualité, du rapport sensible au livre. C'est pas juste le beau toucher du papier.
Non, mais tout à l'heure, je renifle magazines, et c'est merveilleux.
Mais certains sentent mauvais.
Cette odeur.
Et on les aime quand même. Certains papiers sont rêches et on les aime quand même, les textes. C'est pas ça. C'est que, simplement, si vous voulez travailler sur un livre, nous, c'est nos métiers. On passe notre temps à corriger.
Les systèmes d'annotation. Sur les liseuses,
oui,
c'est ça.
Il faut 6 mois pour lire un livre, si on veut la noter.
C'est horrible. Vous avez essayé, vous aussi.
Oui,
on a arrêté très
impossible.
Vite. Hein.
C'est impossible.
Mais c'est vrai que...
La technologie du livre imprimé est un truc qui reste insurpassable, et je trouve ça fascinant et riche de sens possible.
Insurpassable,
ça reste à analyser.
Sans smartphone ou autre à côté, quand on lit, on a des images, quand on lit, on a de la musique, on a du son, on a des odeurs. Qui sont générées par soi, mais elle pose quand même pas mal d'autres questions, et la question du format quand même aussi, du format propriétaire, quand on est sur la librairie d'Apple ou un format qui est plus libre mais du coup qui est moins bon, la question des livres d'art, alors qui est moins, c'est la question qui nous concerne ce jour, c'est plutôt l'émission de la dispute du mercredi, mais qui est effectivement passionnante. Ça devrait être formidable de pouvoir zoomer dans les détails d'une œuvre, trouver la touche de peinture, enfin là ça a plus de sens, sauf que pour des raisons alors économiques et technologiques, vraiment intimement liées, ça n'est pas encore ce qui devrait être un outil formidable, c'est pas encore le cas. Lucille Comeau.
Non mais encore une fois, au-delà du média que constitue la technologie, moi, ce qui me questionne, c'est qu'on ne se saisisse pas du numérique comme pure forme, c'est-à-dire comme pure forme graphique.
Bah,
qu'on peut imaginer
beaucoup ont essayé, hein.
Comme les surréalistes sont intégrés dans le livre, ce qui était absolument novateur, de la photographie, des blancs, enfin un jeu sur le graphisme de la page.
Oui, mais là, tout de suite, c'est des connaissances qui excèdent celles de l'écrivain. Et je pense aussi que c'est le travail d'écriture. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'un écrivain ait envie tout d'un coup. Enfin, peut-être que ça peut.
Ça m'étonne que ça n'existe pas.
Je ne suis pas sûr que ça.
Moi, je pense que ça existe. Hein.
Je suis pas sûr que ça permette des innovations formelles substantiellement différentes de ce qu'on peut faire sur le papier. En fait, je trouve qu'elle ne donne, Lucille Aude, dans le livre, aucun exemple convaincant de quelque chose qu'on ne peut pas faire sur papier. Encore une fois, l'hypertexte, la lecture aléatoire, vous découpez, on fabrique des livres en découpant les pages, tout est possible. Est-ce que vraiment, je n'ai jamais vu depuis 15 ans qu'on parle de ça, s'ouvrir des voies formellement convaincantes, qui, au sens où elles soient réellement nouvelles par rapport à tout ce que le jeu du papier et de l'impression permet.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, Florence, ça fait écho à un autre article de la revue où il est dit qu'en fait, le web lui-même a été construit sur le modèle du livre mécanique. Oui. Et il est totalement fasciné et qu'on parle de page web en permanence parce qu'en fait, on utilise le web exactement comme on utilise un livre papier.
Et je ne crois pas que ce soit la trace d'une forme ancienne et une subsistance dans des temps nouveaux. Je crois que ça correspond plutôt à une structure de la pensée et du rapport à l'objet, à la connaissance.
Oui, parce qu'un objet quand même 500 ans que ça implique nos cerveaux aussi.
Oui, c'est de l'ordre de la structure profonde de nos civilisations fondées sur l'écrit.
Ouais,
et donc sur le livre en tant que tel.
Une chose qui peut changer.
Oui, mais qui ne change pas, de fait.
Mais les formats, c'est important. Et le format de la dispute également. Il va nous laisser, on va ressortir le jingle coup de cœur pour faire un petit plaisir à Florent Georgescu.
Et non, c'est
pour lui laisser quelques instants pour l'évoquer. C'est l'heure, donc, de ce coup de cœur de Florent Georgescu pour la croisade sur le Danube de Jehan de Vavrin chez Anacharsis.
Anacharsis, oui,
j'ai bien dit, non ?
Oui, je confirmais. Dans l'excellente collection de cette excellente maison, la collection Famagouste. Famagouste, c'est, pour votre information, une ville de Chypre. C'est la ville où Mike Brandt est né, d'ailleurs.
Ouais, je sais, j'y vais chaque année. Allez, poursuivez.
Vous devriez diriger cette collection. Par exception, c'est un livre d'histoire que je vous apporte là. Et mieux encore qu'un livre d'histoire, c'est une archive, c'est un document historique, un texte du 15e siècle. Mais justement, j'avais très envie de rendre hommage à ces travaux que mènent des historiens sur l'archive qui, à force de précision et même, j'allais dire, d'étroitesse de la recherche sur un micro-document, peut aboutir à quelque chose qui a la beauté, la force, l'amusement de la littérature. Et je pense que nos auditeurs sont, je pense, par définition, des gens qui s'intéressent à la littérature. Je crois qu'ils seraient très bien inspirés de lire des livres comme ça. En l'occurrence, en deux mots, vraiment, c'est l'histoire de ce qu'on appelle la dernière croisade. On est au 15e siècle. La chrétienté vient affronter donc une dernière fois, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est la dernière fois sous la forme de la croisade, vient affronter les Turcs. Ils sont défaits en 1444 dans la mer Noire. Et des navires qui appartiennent au duc de Bourgogne restent dans la région et ils traînent encore alors que tout est perdu. Il y a dans cette aventure qui commence comme une épopée, plusieurs siècles d'histoire de la croisade comme histoire légendaire de l'héroïsme le plus caractéristique. Et tout cela se défait, s'effiloche en une sorte de petite aventure miteuse ou l'auteur du livre, qui est l'oncle du général, enfin du capitaine en chef de ces navires, essaie de sauver les meubles, de sauver l'honneur de son neveu et de ses troupes, mais ça marche pas très bien. Et il y a dans cette dérive une force poétique, une beauté purement narrative, d'une sorte d'absurdité qui vient peu à peu, on ne sait plus trop ce qu'on fait là, qui est extraordinaire. Il faut dire qu'au passage, on rencontre notre ami Vlad Dracul, que vous connaissez bien tous sûr. Sous un autre nom.
Je le vois tous les week-ends.
Oui, ça
ne m'étonne pas de vous. Et dont Jean de Vavrin dit que c'était un homme, je le cite, célèbre pour son courage et sa sagesse.
Donc, et cette
vous
citation...
voyez, ce genre de livre nous permet d'avoir des révélations, y compris sur Dracula. Je ne saurais trop vous le recommander.
La croisière sur le Danube de Jean de Vavrin, publié chez Anacarsis. Avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse. David ?
Quels sont les noms des deux galeries que l'on explore durant l'exposition De l'amour ? Et la réponse est la galerie des attachements et la galerie des sciences.
La hâte. À gagner ce soir des invitations pour l'exposition des nominés au prix Marcel Duchamp. C'est une exposition qui ouvre le 9 octobre au Centre Pompidou à Paris. Quelle est la question, David Dana ?
En quelle année le prix Marcel Duchamp a-t-il été créé ?
Simple. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir Jean-Guilain Mèvre, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site franceculture.fr à la page de la dispute où l'on peut réécouter ou podcaster nos émissions. Demain à 19h, nous parlerons de cinéma. Je serai avec Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Philippe Azoury à notre affiche Atlantique de Mathilde Diop, Alice et le maire de Nicolas Parisier. Un tour à l'exposition L'œil extatique Sergueï Eisenstein au centre Pompidou-Metz et puis un coup de cœur, un hommage de Philippe Azoury au cinéaste colombien Luis Ospina dont on a appris la mort vendredi dernier.